des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Brin de Jardin, la chronique jardin sur les ondes de Radio Royan Vercors que vous pouvez réécouter d'ailleurs sur notre site internet radioroyan.fr. Chaque semaine, on retrouve Romain Jacquier Laforge qui est jardinier et qui nous propose ses chroniques. Bonjour Romain.
Bonjour.
Mais Romain n'est pas seul aujourd'hui derrière le micro puisque nous avons un invité. Il s'agit d'un autre Romain, il s'appelle Romain Murga, il est pépiniériste à Échevis. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain est pépiniériste, mais également passionné et collectionneur. Et il va nous expliquer un petit peu, collectionneur de fruitiers. Et ça va être l'objet de la chronique du jour, puisqu'on va parler de fruits exotiques et plus spécifiquement de kaki et d'azimine que Romain fait pousser.
C'est ça, exactement.
Alors peut-être pour commencer, Romain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste de collectionner des fruitiers? Où est-ce que tu vas chercher les différentes espèces et comment ça se passe?
Alors, j'ai commencé à planter des fruitiers hors du commun et rares en 2015 sur la commune d'Échevis. Donc ça m'a demandé pas mal de recherches, des contacts avec d'autres collectionneurs, des contacts notamment à l'étranger. Pour si on reste dans le cas du kaki, pour trouver des variétés autres que celles qu'on trouve couramment en Europe. Donc j'ai beaucoup de variétés qui viennent du Japon et également des variétés qui viennent des pays de l'Est. Bah, souvent c'est des hybrides, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais des hybrides qui permettent d'avoir des kakis plus résistants au froid, qui s'adaptent mieux aux conditions un peu rudes du plateau du Vercors. Et également des plaquemines de Virginie, donc c'est un arbre du même genre botanique que le kaki, mais qui est endémique d'Amérique du Nord, et qui permet de découvrir de nouveaux parfums, et d'hybrider les deux espèces entre elles pour faire des nouveaux fruits.
Parce que c'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais jeune, mon père, il est de la plaine de la Bièvre, donc pas très loin d'ici, mais... alors il faisait plus froid aussi, mais ça n'existait pas en fait. Un kaki en général c'était dans les coins plutôt du sud, et maintenant tu dis que à la Chapelle, enfin voilà, il fait moins froid qu'avant, mais tu peux planter des kakis à Chapelle, peut-être même à Vassieux. Alors
oui, effectivement, on a planté avec succès des kakis jusqu'à Vassieux et même plus haut, parce que j'ai notamment un client dans les Hautes-Alpes qui en a planté un à 1600 mètres d'altitude sur une exposition sud. Mais donc là, c'est encore tôt pour parler de la mise à fruit et de la qualité du fruit, mais en tout cas, ça fait plusieurs hivers que l'arbre tient le coup. Effectivement, le genre Diospyros, donc c'est le genre botanique qui inclut les kakis, c'est un genre botanique qu'on trouve surtout en climat subtropical et tempéré, et qui est sensible au gel de printemps. Le gel va détruire le feuillage, et c'est le principal frein à sa culture dans les zones un peu froides, en fond de vallée, dans les poches de froid et puis en altitude. Donc dans ce genre botanique, Diospyros, il y a beaucoup d'espèces, mais il y en a trois qui sortent du lot, entre guillemets, pour la production fruitière. Donc la première, c'est la plus emblématique, le Diospyros kaki, qui est endémique du Japon et de la Chine. C'est l'espèce qui fait les fruits les plus gros et les plus sucrés, et qui a, comme tous les Diospyros, une astringence assez forte. Donc ça pousse à consommer les kakis blé. Ensuite, en Europe, on a aussi une espèce de Diospyros, mais qui est assez peu répandue. Elle est surtout présente dans le pourtour méditerranéen. Et on n'en a pas d'usage fruitier, alors que c'est un fruit comestible. C'est le Diospyros lotus, qu'on appelle aussi plaqueminier lotier ou prunier dattier. Ça fait des fruits très semblables au kaki, mais en petit format. On en trouve de temps en temps dans les campagnes, notamment il y en a un pied à Échevis qui fait des petits fruits. Une fois séchés, ils ont vraiment un goût de banane. Mais c'est un fruit qui est tombé un petit peu dans l'oubli. L'usage principal maintenant, c'est l'utilisation en porte-greffe, parce que c'est un arbre qui fait un joli système racinaire avec beaucoup de chevelu et qui le rend facile à transplanter. En plus d'être endémique, donc il est déjà adapté à notre climat. Donc c'est l'usage principal qu'on en fait en production fruitière. Et il y a une troisième espèce qui est intéressante dans le genre Diospyros pour le fruit, c'est le plaqueminier de Virginie dont je parlais tout à l'heure, endémique d'Amérique du Nord, qui a le gros avantage de démarrer plus tard au printemps, 10 à 15 jours après le kaki. Donc ça l'expose moins au gel de printemps. Il fait des fruits plus petits. Les plus grosses sélections fruitières font la taille à peu près d'une pièce de 2 euros en diamètre. Et au niveau des arômes, ça n'a rien à voir, c'est très très puissant, ça ressemble beaucoup à de la glace rhum raisin en fait. Et c'est tellement puissant que pour moi c'est un fruit intéressant, mais qu'on va pas pouvoir, on va pas en manger à tous les repas, c'est presque écœurant tellement le parfum est puissant.
Alors, ce que tu disais là, les lotus, moi j'en vois des fois se ressemer dans les jardins. C'est une plante qui arrive à très bien se ressemer en fait, hein, c'est assez incroyable. Ça a une forme qui est assez jolie, c'est très horizontal, enfin c'est vertical et en même temps c'est horizontal, les branches sont très horizontales. Ça prend des très jolies couleurs d'automne et j'ai un client à la rivière qui lui est chasseur et c'est un gars qui aime les animaux en fait, enfin qui aime pas obligatoirement que les tuer, et il disait qu'il en a un très très beau chez lui, et donc il a plein de semis et il en plante des fois, il demande à des agriculteurs s'il y a des parcelles, parce qu'il y a beaucoup de noyers là-bas, il n'y a pas grand chose d'autre, et donc s'il y a des parcelles, des morceaux qui sont en haie ou des choses comme ça, il en plante, voilà, il en plante régulièrement avec le concours des agriculteurs pour nourrir les oiseaux l'hiver, voilà, pour qu'il y ait quelque chose. C'est un très 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 joli arbre, même d'ornement, enfin voilà.
Ouais, effectivement, c'est un très bel arbre, et en plus de ça, ça fait des fruits en hiver à un moment où il n'y a pas grand chose pour la faune sauvage à se mettre sous la dent, donc c'est un arbre qui est intéressant et qui se ressème très bien, effectivement.
Et même en termes de goût, donc en termes de résultats, tu parlais du parfum rhum raisin, ça donne des choses très différentes en fonction de.
Alors ça, c'est pour l'espèce Diospyros virginiana qui n'est pas présente naturellement en Europe, mais effectivement au niveau du parfum, c'est très intéressant, très particulier, à condition de connaître le bon moment pour le manger, parce que si on le mange avant blétissement, il y a une âpreté qui est affreuse, et après blétissement, ça prend vraiment un surblétissement, on va dire, ça prend un goût, on a l'impression de manger de la colle néoprène. Voilà, donc,
d'accord.
Il faut vraiment choisir son créneau pour le manger. C'est mon fils qui m'a fait remarquer, il m'a dit: mais papa, tes fruits ils ont un goût de colle là. Et donc j'ai goûté, effectivement c'était trop mûr, et il y a vraiment un créneau restreint sur lequel consommer ces fruits. Mais cette plaque mine de Virginie, elle est de plus en plus utilisée en hybridation. Donc là je vous ai amené aujourd'hui des fruits qui ont été sélectionnés à Kiev, sous l'Union soviétique, pour créer des cultivars de kaki qui soient cultivables en zone froide. Et donc là c'est un kaki qui s'appelle, donc c'est un kaki hybride, qui s'appelle Nikita's Gift. Et donc il est assez petit du fait de son hybridation. Il est plus gros qu'une plaque mine de Virginie, mais plus petit qu'un kaki japonais. Et son gros avantage, c'est donc de démarrer plus tard, dû à sa génétique de virginiana, et d'être plus adapté aux zones froides. Donc c'est ce genre de variété que je vais chercher à implanter en zone d'altitude ou en zone froide. Et en plus de ça, l'hybridation va apporter également des arômes. Il n'y aura pas les arômes rhum raisin aussi puissants que sur le virginiana, mais ça a quand même une saveur un peu plus prononcée, plus appuyée que le kaki, qui est souvent réduit simplement à une texture gluante et du sucre.
Parce que le kaki, si je comprends bien, donc pour pousser, il a besoin quand même de conditions pas trop froides, pas trop extrêmes. Mais par contre, après, pour blétir, il faut qu'il gèle, en fait, tout simplement.
Alors souvent, on associe le blétissement du kaki au gel, parce que les variétés qu'on consomme en Europe vont blétir au moment des premières gelées. Mais en fait, le kaki n'a pas besoin de ce gel pour blétir. C'est simplement un stade de surmaturité. À partir du moment où le kaki a pris sa coloration rouge-orangée, on peut le décrocher de l'arbre. On dit qu'il a atteint sa maturité physiologique. Et à partir de là, il peut continuer à mûrir en cajot. Et c'est au moment où il devient complètement coulant qu'on dit qu'il a atteint sa maturité gustative. Et à ce moment-là, il est apte à être consommé. Et en fait, ce qui se passe au moment du blétissement, c'est une polymérisation des tanins qui sont contenus dans le fruit. L'âpreté du kaki est due à cette concentration en tanins qui est très forte dans cette espèce. Et quand on croque dedans, les tanins sont solubles au moment du. Quand le kaki est encore dur, les tanins sont solubles. Ils se dissolvent dans la salive et viennent se coller à la langue et au palais. C'est ça qui rend le fruit immangeable. Et au moment du blétissement, la polymérisation rend les tanins insolubles et le kaki est apte à la consommation. Et au Japon, ils ont su tirer profit de ce taux de tanin très fort dans le fruit pour en faire d'autres usages. Donc il y a le shibugaki par exemple, c'est l'utilisation du kaki pour faire des produits de traitement de charpente. C'est des sélections de kaki qui sont tellement tanniques qu'on ne peut pas digérer des macérats de ces fruits-là pour protéger les charpentes des insectes xylophages.
Et dans le Royaume Vercors, donc si on a un plaque minier chez soi et qu'on veut donc cueillir ces kakis avant de pouvoir les consommer, donc on les met dans des cageots et ensuite comment est-ce qu'on les conserve pour qu'ils blétissent ?
Alors le blétissement et la vitesse de blétissement est proportionnelle à la température. Si on veut que ça blétisse vite, il faut les mettre au chaud. Si on veut que ça blétisse lentement, il faut les mettre au frais. Donc on peut jouer, si on a un arbre et qu'on veut étaler la maturité pendant l'hiver, on peut par exemple stocker les fruits au frigo et en sortir quelques-uns pour les forcer à blétir un peu plus vite. Mais il y a d'autres façons de faire blétir, de casser l'astringence du kaki. Donc de manière industrielle, la plus connue, c'est la chambre à CO2. Enfermer les fruits ramasser les kakis durs quand ils ont atteint la maturité physiologique et les enfermer dans des chambres de CO2 pour ôter l'astringence sans pour autant les faire blétir. C'est intéressant sur le plan commercial parce que ça permet de les transporter durs sans qu'ils éclatent dans les cageots. Après, traditionnellement au Japon, il y a aussi une technique à base d'alcool. On enferme les kakis dans une jarre. Je crois même qu'ils peuvent, ils le font également avec un lait de chaud. Donc enfermer les kakis dans cette atmosphère permet de forcer le blétissement. Et il y a aussi une troisième façon de doter cette astringence, une façon traditionnelle japonaise qui s'appelle le oshigaki, le kaki séché. Et en fait, on va forcer la polymérisation du kaki par séchage. Le séchage doit se faire de manière très douce, très lente. Parce que s'il se fait trop vite, la polymérisation n'est pas complète et le kaki sec reste astringent. Donc c'est très important de faire ça lentement. Et au Japon, ils font ça avec des guirlandes de kaki qui sont pendues en extérieur ou alors dans des hangars. Mais en aucun cas, ça se fait avec un séchoir à fruits. C'est vraiment un séchage de plein air. Là, j'en ai amené aujourd'hui. Donc c'est la même variété, Nikita's Gift, qui a été séchée. Donc c'est des kakis que j'ai pelés et que j'ai blanchis pour pasteuriser la surface et éviter l'apparition de champignons. Vu qu'ici on a quand même un climat plus frais et plus humide qu'au Japon, c'est important de faire ça avant de lancer le séchage pour éviter l'apparition de moisissures dès le début du séchage. Et donc là, encore une fois, il faut que le séchage se fasse vraiment lentement pour qu'il y ait polymérisation. Et le fait de peler le kaki, ça l'aide à sécher, bien sûr. Et comme je vous disais, cette variété est assez petite, donc là il est sec jusqu'au cœur, et donc on a une texture qui pourrait se rapprocher un petit peu d'une figue séchée. Mais au Japon, les variétés qui sont utilisées pour faire les oshigaki, c'est des variétés qui font des gros calibres, et ça permet d'avoir la peau qui sèche avec une cristallisation des sucres en surface, donc ça donne un aspect blanc comme si on avait saupoudré du sucre, c'est très joli. Et à cœur, ça reste blé, le séchage ne se fait pas entièrement jusqu'au cœur, il s'arrête avant. Et ça permet d'avoir un croquant et un fondant à la fois. Donc c'est vraiment un art. C'est pas évident d'arriver à trouver le bon taux de séchage et arrêter le séchage au bon moment. Un taux de séchage qui permet d'avoir une bonne conservation du fruit et des qualités gustatives optimales.
Et alors, Romain Burga, tu es pépiniériste à Échevis. Et donc, tu fais tous ces tests, toutes ces sélections. Donc là, on parle du kaki, mais j'imagine aussi pour d'autres variétés. Est-ce que c'est par passion ou est-ce que c'est pour ton travail à la fin et que tu proposes ces variétés à tes clients? Comment ça se passe?
Alors, c'est les deux. C'est par passion et ça fait également partie de mon travail. J'ai envie d'être un pépiniériste qui maîtrise ces variétés, qui les connaît. Donc, elles sont toutes en culture sur le site de la pépinière. Et c'est important pour moi de pouvoir parler de ce que je vends et pas simplement comme si le client venait chez un grossiste acheter des plantes issues d'achat-revente ou d'une production qui n'est pas complètement, des fruits qui ne sont pas complètement connus par le producteur. Moi j'ai vraiment à cœur de bien connaître les variétés que je propose.
Et t'as combien de variétés de kaki là pour l'instant en vente chez toi? Ils sont, voilà, de toute façon là tu les arraches en racines nues
ou... Ils sont disponibles, ouais. J'ai une vingtaine de variétés au catalogue. Donc là il y en a déjà pas mal qui sont en rupture de stock. Mais j'ai encore du choix, que ce soit en kaki astringent ou non astringent. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'au Japon, à force de sélection de variétés fruitières, ils ont plus de 1000 variétés fruitières de kaki. À force de sélection, ils ont fini par obtenir des kakis qui ont naturellement les tanins insolubles. Et donc ça permet, c'est ce qu'on appelle les kakis pommes en fait, c'est des kakis qu'on peut croquer dès qu'ils ont atteint la maturité physiologique, parce que les tanins sont naturellement insolubles dans ces variétés-là. La plus connue c'est le fuyu, qu'on trouve assez fréquemment dans le commerce par ici.
Donc pas de blétissement nécessaire dans ces cas-là?
Pas de blétissement nécessaire.
Très bien.
On évoquait les kakis, mais je crois que tu voulais nous parler également des azimines, qui sont une sorte de mangue.
Alors l'azimine, c'est un fruit que j'ai mis en culture assez récemment sur mes parcelles. C'est un fruit qui est endémique d'Amérique du Nord, qui est très peu présent en Europe, qui commence à être cultivé un petit peu, et qui est très intéressant gustativement. En fait, c'est un fruit qui... c'est un arbre qui produit des fruits qui ressemblent très fortement à de la mangue, qui ont une texture entre l'avocat et la banane, avec vraiment un goût mangue-banane assez bluffant, assez incroyable. C'est un arbre qui est assez difficile à cultiver. Je me suis un petit peu cassé les dents au début, parce qu'en fait, il n'aime pas qu'on lui chatouille les racines. Il a une racine pivot qui est très puissante, et quand on la touche, si on la casse, ça va vraiment bloquer l'arbre dans sa croissance. Il va végéter pendant plusieurs années avant de s'en remettre. C'est également un arbre qui supporte pas les UV les deux premières années de pousse, donc on peut pas l'exposer au soleil directement. Il a besoin de beaucoup de lumière mais d'ombrage, et c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau au début également pour bien mettre en place son système racinaire, sans quoi ça va végéter, et ça pousse assez lentement en plus au début. Et là, une autre difficulté, c'est la pollinisation, parce que c'est... En fait, la fleur a une odeur très désagréable, et c'est un papillon qui vient faire la pollinisation. Ce papillon n'est pas présent sur le continent européen, et donc pour forcer la pollinisation, y a certaines personnes qui mettent des fruits en décomposition, des choses qui sont malodorantes, quoi, pour forcer d'autres insectes à venir s'intéresser à cette fleur, et à polliniser l'aziminier. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est vraiment un fruit incroyable qui se récolte en automne, qui peut être assez gros. Là, les plus gros qu'on a récoltés cette année faisaient plus de 350 grammes, et le goût est vraiment, vraiment incroyable.
Au niveau de la plante, le feuillage est comment ? Est-ce que les sols correspondent ? Il faut un sol, parce que des fois les plantes d'Amérique du Nord, il faut des sols un peu acides ou des choses comme ça. Comment ça se passe pour ça ? Et après, l'aspect général de la plante, la floraison, le feuillage.
Alors le feuillage, ça fait des feuilles assez grandes. C'est vraiment un aspect d'arbre un petit peu tropical. On voit que c'est pas un arbre endémique de nos régions. La fleur est rouge, assez particulière. Elle a plusieurs pistils, donc une fleur va donner une grappe de fruits en fait. C'est assez impressionnant d'avoir une fleur et à la fin une grappe de 7 à 10 fruits qui peuvent peser 300 grammes chacun. Et ensuite,
au niveau du terrain,
ça préfère les sols humifères assez frais. C'est une plante qui aime les bords de rivière dans son milieu naturel. Mais on peut l'implanter dans des zones plus rocailleuses à condition de lui faire un joli trou, lui mettre un terreau... de qualité et d'arroser abondamment la première année.
Et toi, tu en as déjà commercialisé cet arbre ?
Je vends des plants, effectivement. Mais des plants qui sont produits en extérieur, qui ne sont pas produits sous serre. Donc c'est des plants qui restent relativement petits, mais qui sont rustiques. Et donc j'ai des plants de semis, également des plants greffés. Et le choix que j'ai fait par rapport au fait que je vous disais que la racine pivot ne supporte pas d'être cassée, c'est une technique d'horticulture, c'est de les cultiver avec une technique d'horticulture qui s'appelle le air pruning. C'est une technique qui permet de... En fait, c'est des pots qui sont ajourés dans leur fond et qu'on surélève légèrement pour créer une lame d'air entre le sol et puis le pot. Et quand la racine arrive au fond du pot, elle se retrouve au contact de cette lame d'air, elle va bloquer sa croissance, donc elle va nécroser son extrémité et elle va se mettre à se ramifier. Et donc ça permet d'avoir un pivot de taille réduite qui n'a pas reçu de coup de sécateur, donc ça va pas bloquer la plante dans sa croissance. Et ça permet de développer quand même un chevelu racinaire qui est intéressant pour la reprise. Et une fois que l'arbre est en place, en pleine terre, le système racinaire reprend sa croissance vers le bas et recrée des pivots.
Et bien voilà, donc pour cette chronique sur les fruits exotiques dans le Royan Vercors, et oui, on peut faire pousser des fruits exotiques comme les kakis et les azimines, qui sont une sorte de mangue donc sur notre territoire. Un grand merci aux deux Romains, à Romain Murga, pépiniériste à Écheville, qui veut ajouter quelque chose, je crois.
Simplement vous remercier, merci à vous.
Et merci également à Romain Jacques Laforge, qui est jardinier et vous propose chaque semaine cette chronique Brin de Jardin, que l'on retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à lui envoyer vos questions écrites par mail à brindejardin@gmail.com, brin au pluriel. À très bientôt.